Bien, mais voilà. Durant cette année 2026, j'aurai l'occasion, Dieu voulant bien sûr, d'être à 7 reprises parmi vous. Alors, avec aujourd'hui compris, ça ne sera pas 7 dimanches de suite, mais d'ici la fin de l'année. Alors, je ne sais pas comment vous prenez cette information, mais sachez que de mon côté, j'en suis très heureux parce que j'aime beaucoup être parmi vous. Alors, j'ai pensé que plutôt qu'apporter chaque fois un thème différent de message, ce serait bien d'avoir quelque chose d'un peu plus suivi. Mais il y aura des thèmes différents, mais reliés entre eux par le fait qu'ils sont tous tirés de l'Épître aux Hébreux. Et vous le savez sans doute, dans l'Épître aux Hébreux, on trouve à 13 reprises l'adjectif comparatif en grec kraiton qui a été traduit par meilleur ou par supérieur ou par plus excellent ou par mieux que dans l'Épître aux Hébreux. Et les différents thèmes qu'on va aborder auront pour point commun qu'ils traitent tous de ces éléments meilleurs, que ces éléments que l'Épître aux Hébreux appelle meilleurs. Et dans ces différents thèmes, il y aura une meilleure espérance, une meilleure alliance et de meilleures promesses, de meilleurs sacrifices, de meilleures possessions, une meilleure patrie, un meilleur sang, ainsi que le Fils de Dieu supérieur aux anges. Ça fait en tout 8 meilleurs, mais il y aura 7 messages, parce que dans un, il y a 2 meilleurs ensemble. Et pour aujourd'hui, je vous invite à méditer sur le premier de ces meilleurs de l'Épître aux Hébreux. Il s'agit d'une meilleure espérance. Et je vous propose de lire l'entier du chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux. Et ensuite, voilà, la prédication sera donc tirée de cet épître. Alors, le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux en entier. Ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla à la rencontre d'Abraham qui revenait de la défaite des rois et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout, et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, et rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Or, considérez combien il est grand, celui à qui Abraham lui-même, le patriarche, donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus des reins d'Abraham. Mais lui, qui ne figure pas dans leur généalogie, il préleva la dîme sur Abraham, il bénit celui qui avait reçu les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Tandis qu'ici, ce sont des hommes mortels qui reçoivent la dîme. Là, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. Enfin, Lévi qui reçoit la dîme l'a pour ainsi dire payé par Abraham, car il était encore dans les reins de son père quand Melchisédek alla à sa rencontre. Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, car c'est de lui que c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, quel besoin y avait-il encore qu'un autre sacrificateur paraisse selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi changement de loi. En effet, celui à qui s'appliquent ces paroles appartient à une tribu dont personne n'a été attaché au service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est originaire de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit concernant les sacrificateurs. Cela devient plus évident encore quand paraît à la ressemblance de Melchisédek un autre sacrificateur qu'il est devenu non par la loi d'une ordonnance charnelle, mais par la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. En effet, il y a d'une part suppression d'une ordonnance antérieure à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et d'autre part, introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela ne s'est pas fait sans serment. Les autres, en effet, sont devenus sacrificateurs sans serment, mais lui, Jésus, l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur l'a juré et ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour l'éternité. » Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance meilleure. De plus, ces sacrificateurs ont existé en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce non transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi, en effet, établit comme souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment postérieur à la loi a établi le Fils, que le Fils est parvenu pour toujours à la perfection. Voilà, quand on débarque dans un texte comme celui-ci, un dimanche matin, on a quelques raisons de trouver cela compliqué. Peut-être pas aussi compliqué que dans certaines pages du livre d'Ézéchiel ou de l'Apocalypse, mais quand même, vous l'avez entendu, on y entend parler de sacerdoce lévitique, de sacerdoce non transmissible, des uns qui étaient supérieurs aux autres, et pour couronner le tout, de cet énigmatique et mystérieux personnage qu'était Melchisédek. Parmi les noms masculins bibliques, plusieurs sont devenus très communs, comme par exemple David ou Daniel, mais je n'ai pas connaissance que ce soit le cas de Melchisédek, en tout cas pas sous nos latitudes. Dans mon téléphone, dans mon répertoire, j'ai une liste de noms très variés. Je n'ai pas souvenir que j'ai un Melchisédek. Tout cela pour nous dire que notre texte, comme je dis, quand on l'aborde comme cela, peut nous sembler quand même un peu compliqué. Mais rassurez-vous, quand on l'épluche un peu, tout s'éclaire, ou presque tout. Et je vous propose ce matin de l'éplucher un peu ensemble et pour arriver à cette question de meilleure espérance. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, il est sans doute utile de savoir déjà à qui s'adressaient ces textes. Et là, la réponse est assez simple. Puisque l'épître a été intitulée « Épître aux Hébreux », on comprend par là que cette épître était adressée premièrement, prioritairement, à des Hébreux. Peut-être pas exclusivement à des Hébreux, mais les premiers destinataires de cette lettre étaient majoritairement des Hébreux, c'est-à-dire des Juifs, mais plus particulièrement des Juifs qui avaient cru que Jésus était leur Messie promis. Et il y a fort à parier que ces personnes étaient persécutées. En effet, quand on lit l'Épître aux Hébreux un peu plus loin, il est dit qu'ils avaient montré de la solidarité par rapport aux prisonniers. On en déduit donc qu'il y avait parmi eux des prisonniers. Et puis, il est ajouté qu'ils avaient regardé comme un sujet de joie l'enlèvement de tous leurs biens. Et on comprend par là que certains avaient perdu tous leurs biens. On peut donc parler avec certitude d'un contexte de persécution. Et avec ça, le risque pour ces croyants de faire un retour en arrière par rapport à leur foi nouvelle. Et afin d'éviter cela, l'auteur leur peint un portrait du Messie tout à fait authentique, mais qu'il décrit comme, on vient de le chanter, au-dessus de tout. Et en effet, l'auteur de l'Épître aux Hébreux présente Jésus, le Messie, comme supérieur à Josué, supérieur à Moïse, même supérieur aux anges. Son service est plus excellent qu'eux, son sang parle mieux qu'eux, et c'est aussi le cas dans notre texte où il est présenté comme un souverain sacrificateur plus excellent, supérieur à ceux que les Israélites connaissaient déjà, c'est-à-dire Aaron et par la suite sa descendance. Et là aussi, il est important de savoir qui était en fait ce souverain sacrificateur. Et pour bien le comprendre, il est utile de retourner dans l'Ancien Testament et au sein du peuple d'Israël en particulier. Et vous le savez comme moi, le peuple d'Israël était formé de 12 tribus. Et parmi ces 12 tribus, une avait été mise à part pour le service de Dieu, c'était la tribu de Lévi, et leur travail consistait à entretenir, monter, démonter, transporter le tabernacle, ce lieu de culte ambulant qui suivait les Israélites. Et puis par la suite, une fois qu'ils ont été installés en Canaan, plus tard, David a réorganisé le service et c'est parmi eux qu'on trouvait les chantres, mais aussi des portiers et des secrétaires. Et puis, c'est parmi cette tribu de Lévi qu'on trouvait aussi les sacrificateurs. Mais eux étaient plus spécifiquement des descendants d'Aaron. Ils n'étaient pas simplement des Lévites, mais descendants d'Aaron. Et c'est parmi eux, offraient bien sûr les sacrifices et officiaient dans le temple ou dans le tabernacle, et c'est parmi eux qu'on trouvait le souverain sacrificateur. Et de par les exigences et les devoirs qui étaient les siens, on peut dire que ce souverain sacrificateur était l'homme le plus saint de toute la communauté d'Israël. Ou en tout cas, il aurait dû être l'homme le plus saint de toute la communauté d'Israël, parce que c'était, d'un point de vue religieux, le personnage clé, le plus important parmi les importants. Et pourtant, vous l'avez entendu dans notre texte, il est dit que ce souverain sacrificateur, quand bien même il était le plus saint de toute la communauté d'Israël, il devait offrir chaque jour des sacrifices pour ses propres péchés et puis ensuite pour ceux du peuple. Mais en ce qui concerne Jésus, notre souverain sacrificateur, il est dit ceci, il est saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Lui n'a jamais eu à offrir un seul sacrifice pour ses propres péchés. Mais il lui a suffi de s'offrir lui-même une seule fois en sacrifice pour résoudre le problème du péché, et le péché est précisément ce qui nous séparait de Dieu. Et maintenant, vu que tout a été accompli et que ce qui nous séparait de Dieu a été couvert, a été ôté, par le sacrifice de Jésus, nous n'avons plus de restrictions pour pouvoir nous approcher de Dieu. Nous pouvons le faire en toute liberté. Et c'est ce que l'Épître, ou notre texte en particulier, appelle une meilleure espérance. Verset 19, « La loi, en effet, n'a rien amené à la perfection. D'autre part, une meilleure espérance a été introduite par laquelle nous nous approchons de Dieu. » Alors, quand il est parlé d'espérance ici, ce n'est peut-être pas l'espérance dans son sens complet, pour ce qu'elle représente dans la foi chrétienne. L'auteur, ici, l'aborde uniquement sous l'angle « s'approcher de Dieu ». Il n'y a qu'une seule espérance, bien sûr, dans la foi chrétienne, mais cette espérance a plusieurs facettes. Et la facette qui est abordée ici, c'est cette facette qui nous permet de nous approcher de Dieu. Une meilleure espérance a été introduite par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et si l'auteur nous parle d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu, cela signifie implicitement qu'il y avait déjà parmi les Israélites autrefois une certaine espérance. Et dans cette espérance, des promesses qui annonçaient au peuple qu'un temps viendrait où la proximité d'avec Dieu serait plus grande et plus accessible. Alors, en Israël, il y avait déjà, en quelque sorte, la possibilité de s'approcher de Dieu. Mais il fallait le faire au travers d'un rituel. Il y avait justement ces intermédiaires qui étaient les sacrificateurs et qui offraient des sacrifices. Mais si on voulait s'approcher de Dieu, il fallait apporter des sacrifices qui ensuite étaient offerts. Et quand on regarde bien comment les choses étaient organisées, on peut dire la chose suivante, ils pouvaient d'une certaine manière s'approcher de Dieu, mais tout était soigneusement organisé pour qu'une certaine distance soit gardée entre l'Éternel et son peuple. Eh bien, cette distance a été levée. Il y avait, c'est vrai, une espérance déjà en Israël. Jérémie le dit, et on peut le lire dans son livre lorsqu'il dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance ». Et on comprend par là qu'il y avait cette espérance en l'Éternel, mais aujourd'hui, la différence qui est très marquante que nous possédons, c'est que nous avons cette meilleure espérance qui était déjà annoncée aux Israélites et qui leur annonçait une plus grande proximité avec Dieu. Et l'apôtre Paul, vous savez, l'a dit en toutes lettres, il a dit ceci, par lui, par Jésus-Christ, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Jésus est en quelque sorte lui-même cette meilleure espérance, parce que c'est par lui que nous pouvons nous approcher du Père. Il est le chemin, nous dit l'évangile de Jean. « Nul ne vient au Père que par moi », a dit Jésus, et il est cette meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Reste à savoir, une fois qu'on sait tout ça, comment s'approcher de Dieu. Et là, il y a un premier pas que j'imagine vous avez toutes et tous déjà franchi, qui est le pas de la conversion. Ce premier pas de la conversion, c'est-à-dire se détourner du péché, et c'est possible puisque Jésus nous libère du péché, on peut s'en détourner et puis se tourner vers Dieu par Jésus-Christ. Et ce premier pas, on pourrait penser qu'il s'agit d'un petit pas, mais en fait, ce n'est pas du tout un petit pas d'un point de vue spirituel, c'est même un pas de géant, parce que dans le monde invisible, il nous est dit que nous sommes délivrés lorsque nous faisons ce pas, que nous mettons notre foi en Jésus, que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres qui règne sur le monde et transportés dans le royaume du Fils bien-aimé. Et une fois dans ce royaume, eh bien, il nous revient de chercher à davantage connaître le roi et sa volonté. Et pour vivre cela, on n'a jamais rien trouvé de mieux que ce que pratiquaient déjà les premiers chrétiens. Et on le voit dans le livre des Actes, il est dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières ». Alors aujourd'hui, on peut vivre ces choses à la fois sur le plan communautaire, mais aussi sur le plan personnel. Et bien sûr, l'enseignement des apôtres, bien on comprend tout l'enseignement qui est donné dans l'Église, mais aussi notre lecture personnelle de la Bible, la prière. Et puis, quand on donne, c'est vrai, du temps à ces choses, Dieu agit dans nos vies, il agit d'ailleurs même en dehors de cela, mais lorsqu'on donne du temps à l'enseignement de la parole, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, on comprend au travers de cela la Sainte Cène, et à la prière, avec le temps, il y a des choses de la part de Dieu qui entrent en nous, et ces choses nous transforment et nous rendent toujours plus proches de Dieu. Et d'être proche de Dieu, c'est véritablement le cœur de l'espérance chrétienne. Approchez-vous de Dieu, nous dit Jacques, et il s'approchera de vous. Lorsqu'on cherche à s'approcher, à le connaître de plus en plus au travers de sa parole et au travers de la communion que nous avons avec lui, lui aussi s'approche de nous. Et en fait, ce à quoi nous sommes appelés, ce n'est pas simplement nous approcher à certains moments puis nous rééloigner à d'autres moments, mais c'est de cultiver cette communion que nous avons, comme le dit l'apôtre Jean, avec le Père et avec le Fils. Je me souviens de ce prédicateur qui était venu à Lausanne il y a bien quelques années en arrière, qui s'appelle Juan Carlos Ortiz, je crois, peut-être vous avez connu. Et lui, il raconte une petite histoire. Il dit que quand quelqu'un venait lui dire, vous savez, aujourd'hui, tout fier, j'ai passé 2 heures dans la présence de Dieu, il lui répondait, et où est-ce que vous avez passé le reste du temps? Ce qu'il voulait dire, c'est bien, il faut encourager cela, hein, de chercher, de mettre des moments à part, de se retrouver vraiment dans la présence de Dieu. Mais la communion qu'on a avec lui est en fait permanente. Vous avez peut-être entendu parler du frère Laurent. C'était un religieux du XVIIe siècle qui a cultivé une grande proximité avec Dieu. Et lui dit ceci, il n'y a pas de vie plus douce qu'une vie de conversation continuelle avec Dieu. Et quand on s'approche de Dieu, c'est bien à cela qu'on est appelé, c'est-à-dire une communion, un partage, qui n'est en fait pas réservé à des moments ou à des lieux particuliers, mais une communion et un partage qui est permanent. Et cela est rendu possible parce que notre espérance, la meilleure espérance que nous avons, c'est précisément cette espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et pour nous, nous sommes très très privilégiés parce que les Israélites, en fait, passaient d'une espérance qu'ils avaient déjà à une meilleure espérance. Mais nous, non-juifs, on passe de pas d'espérance du tout à une meilleure espérance. L'apôtre Paul, en effet, nous rappelle cela aux Éphésiens. Il dit « Autrefois, sans Christ, vous étiez sans Dieu et sans espérance dans le monde. » Alors, c'est ce que nous étions, mais nous passons par la foi en Jésus de ce sans espérance à une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela a été rendu possible par Jésus-Christ à cause de son sacrifice. Le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, à lui soit la puissance, l'honneur et la gloire dans l'Église et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin parce que tu es un grand Dieu. Et c'est vrai, nous avons ce privilège de pouvoir nous approcher de toi et de le faire peu importe le lieu, l'endroit, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais nous bénissons ton nom parce que nous avons un chemin, nous avons une route et nous savons que par Jésus-Christ, nous avons accès auprès du Père, tous dans un même esprit. Et tu nous dis encore, on a lu en tout début de ce culte un extrait de l'Épître aux Romains, chapitre 8, et on se rappelle qu'il est dit aussi dans ce chapitre que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que non seulement nous avons ce privilège aujourd'hui de pouvoir nous approcher librement de toi, mais encore rien ne peut nous en empêcher et rien ne peut nous séparer de toi. Nous voulons, Seigneur, c'est vrai, ce matin, te dire que nous t'aimons, que nous voulons nous approcher de toi et dans la mesure de nos possibilités, c'est vrai, être de plus en plus proche de toi, sachant que par ton esprit, tu habites en nous et tu nous attires à toi, que ton nom soit béni. Amen.